Passé, c'est notre 13e échelon. Notre guide d'étude est sur le point de terminer. Nous avons déjà vu 12 sujets. Maintenant, nous allons considérer le 13e et ce sera la fin. En principe, ce ne sera pas la fin de nos études, car un autre guide va arriver et nous allons avoir un nouveau thème qui sera tout aussi intéressant puisqu'il s'agira de consoler. Non. Pendant ce trimestre-ci, il était question de consoler le peuple de Dieu. Mais pour le trimestre qui va commencer bientôt, il s'agira de la religion et des relations humaines. La religion et les relations humaines. Mais avant l'arrivée de ce beau thème, nous devons quand même terminer celui qui est en étude, savoir consoler mon peuple. Et le point de consolation maximal que Dieu a réservé à son peuple, c'est la renaissance de la planète Terre. Tel est le sujet sur lequel nous allons dire quelques mots pendant les minutes qui nous sont accordées. En attendant, nous vous souhaitons une très cordiale bienvenue à cette étude. Aujourd'hui, nous allons considérer la renaissance de la planète Terre. Et texte en étude, c'est Ésaïe chapitre 65 et chapitre 66. Cependant, nous tenons à vous dire que les auteurs de l'Antiquité ne tenaient pas à écrire dans un ordre logique suivi comme nous le faisons, nous autres auteurs modernes. Il faisait des entrées, des sorties, des reprises, des fenêtres, etc. Alors, les textes en étude ne sont pas tout à fait ordonnés. C'est pourquoi nous allons essayer, tant bien que mal, de vous proposer un plan en rétablissant plus ou moins ce que nous pouvons rétablir en vue de mieux comprendre notre sujet, renaissance de la planète Terre. Pratiquement, notre étude va se baser sur environ 10 à 11 points. Le premier, la fin du lévitisme. Ensuite, Dieu stigmatise le préjugé juif. Puis l'évangélisation des païens, succès de ce mouvement d'évangélisation. Toutefois, la fin du lévitisme n'a pas apporté le mélange des éléments purs et impurs. Vient maintenant le rassemblement de tous les évangélisés, c'est une étape de la renaissance de la terre. Pour ces évangélisés, Dieu se propose de faire une nouvelle terre et de cette nouvelle création, nouvelle terre, nouveau ciel, il donne un aperçu. Ce sera la renaissance totale, car tous les malfaiteurs seront détruits. Les réchappés, eux, formeront une communauté de foi. C'est ainsi, c'est le sujet que nous allons essayer, c'est le plan que nous allons essayer de vous développer. En premier lieu, la fin du lévitisme. Ésaïe 66, versets 2 et 3. Ésaïe 66, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leurs âmes et leur âme trouvent du plaisir dans leurs abominations. Nous devons signaler ici qu'il s'agit d'abord d'un déplaisir divin quant aux adorateurs de l'époque d'Ésaïe. Oui, parce que en faisant, ou plutôt même en faisant les choses que l'Éternel avait ordonnées, leur cœur était inique. Toutefois, dans la suite des temps, nous trouverons que les sacrifices seront abolis, seront désapprouvés de Dieu. C'est le verset 3 tout en particulier. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Nous devons dire que c'est Dieu qui avait établi le système lévitique et qui avait donné des enseignements précis quant aux sacrifices de bœuf, d'agneau, quant aux offrandes et autres choses. Mais ici, l'Éternel n'y prend point plaisir. Voyons le deuxième point, c'est il stigmatise le préjugé juif, c'est-à-dire notre Seigneur désapprouve le fait que les Juifs ne se répandent pas dans le monde pour prêcher l'Évangile. C'est ce que nous disons dans Ésaïe 66, versets 3 à 5. Ésaïe 66, versets 3 à 5, particulièrement. Tout cela se complète dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Les ennemis de l'Éternel sont ceux-là qui n'accomplissent pas ses paroles. Ainsi, il en est fâché, Dieu est mécontent et certainement il ne peut pas les approuver. Toutefois, il réserve un moment au cours duquel, avec quelques hommes de bonne volonté, il entreprendra une vaste œuvre de salut en faveur de tous les païens. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe 66. Versets 18 et 19. Ésaïe 68, versets 18 et 19. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils publieront ma gloire parmi les nations. Beau mouvement, grand mouvement d'évangélisation des païens. Le prophète entrevoira les réchappés de l'Éternel, c'est-à-dire les quelques-uns qui auront accepté l'Évangile, la bonne nouvelle, s'en aller par tout le monde, prêcher le nom de l'Éternel afin de lui rassembler un peuple bien disposé. En effet, c'était le cas, puisque, ou plutôt ce sera le cas, puisque ce grand mouvement évangélique connaîtra du succès, tel que nous allons le lire dans Isaïe 66, versets 20 et 21. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma maison sainte, à ma montagne sainte, à Jérusalem de l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des lévites de l'Éternel. Oui, je prendrai des parmi eux des sacrificateurs, des lévites, dit l'Éternel. Ici commence la renaissance de la planète Terre, avec le grand succès du mouvement évangélique que Dieu va entreprendre en faveur, ou plutôt que Dieu a entrepris en faveur des païens. Ici commence la renaissance de la planète Terre. Mais nous devons aussi remarquer que parmi les convertis des nations, Dieu prendra des prédicateurs. C'est ainsi qu'il dit, et je prendrai parmi eux des sacrificateurs, des lévites, dit l'Éternel. Quel est le rôle des sacrificateurs et des lévites? Présider le culte, enseigner la loi, diriger le peuple dans la voie de Dieu. Oh, c'est vraiment intéressant. Et c'est grâce à l'accomplissement de cette prophétie que maintenant je peux me tenir derrière ce micro, vous parlant de Jésus-Christ, vous parlant des patriarches, des prophètes, parce que précisément, ceux-là qui devaient faire du travail dans les temps passés ne l'avaient pas fait, car il est écrit, c'est à vous premièrement que cette bonne nouvelle a été annoncée, mais puisque vous vous en êtes rendu indigne, nous nous tournons vers les païens. Nous nous tournons vers les païens. Et à partir de ce moment, ces convertis formeront une race bénie, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin d'annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Cependant, la fin du lévitisme n'a pas apporté le mélange des éléments purs et impurs, tel que nous allons le voir dans Ésaïe 66, versets 15 à 17. Ésaïe 66, versets 15 à 17. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair des porcs, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Nous devons remarquer que c'est bien vrai, l'Éternel est déjà arrivé, mais il était arrivé sous la forme d'un simple homme en vue de sauver les hommes, mais jamais dans un char de feu. Ici, dans ce texte, il s'agit du retour de Jésus, de la fin du monde. L'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Cela n'est pas encore arrivé. Et quand ce sera arrivé, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. En sorte que ce texte, ou plutôt la distinction entre animal pur et animal impur, tient jusqu'à présent, puisque ils périront, ceux-là qui mangent des choses abominables et des souris qui mangent de la chair de porc. Et ils périront quand l'Éternel viendra dans un char de feu et qu'il convertira sa colère en un brasier. Cependant, comme cela n'est pas encore arrivé, nous savons que ce verset, ou plutôt la distinction entre animaux purs et impurs, vient bien. Par ailleurs, non seulement le mouvement d'évangélisation a du succès, non seulement il n'y a pas de mélange des éléments purs et impurs, mais Dieu rassemble tous les évangélisés. Il rassemble les éléments de son peuple. Et ce sera la deuxième étape de la renaissance de la terre. Ésaïe 66, versets 7 à 14. Ésaïe 66, versets 7 à 14. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter de l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, lui ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Ici, c'est le jour du retour de Jésus, où notre Seigneur, au son de la trompette de Dieu, rassemblera tous les élus des quatre coins de la terre, afin que tous constituent un seul peuple, une seule Jérusalem, naissant un seul jour, formant une seule nation, sortie du néant en un instant. Ce sera la deuxième étape de la renaissance de la terre. En continuant, nous trouvons que pour ces rassemblés, ces réchappés, ceux-là que Dieu aura réunis pour former une seule nation, et cela en un seul jour, l'Éternel se propose de faire une nouvelle création, telle que nous le lisons dans Ésaïe 66 et le verset 21. Ésaïe 66, verset 21. Je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des lévites, dit l'Éternel, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Oui, Dieu se propose de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre pour ses élus qu'il a rassemblés en un seul jour des quatre coins de la terre afin qu'ils forment une seule nation, un seul peuple. Et c'est cette nouvelle création que Dieu se propose de faire, dont il a donné un aperçu dans Ésaïe 65 à partir du verset 17. Ésaïe 65 à partir du verset 17. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des fruits. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau vivront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Et il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Oh, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Là, ce sera la renaissance totale de la planète Terre, car tous les malfaiteurs auront disparu, le méchant et la méchanceté finiront, tel que nous le lisons dans Ésaïe 65, verset 13 à 16. Ésaïe 65, verset 13 à 16, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Ouh, il donnera à ses serviteurs un autre nom. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Le texte de la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais prenons le contraire. Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? C'est pourquoi, méchants, je vous invite dès maintenant à laisser la méchanceté, pour passer de la rébellion à l'obéissance, des ténèbres à la lumière, de l'impiété au service de Dieu, afin que vous soyez parmi les réchappés en faveur desquels il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, afin de faire renaître totalement la planète Terre. Maintenant que tout cela est fait, les réchappés ont formé une belle communauté de foi, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 65, verset 16. Ésaïe 65, le verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Oui, chrétiens, Dieu se propose de rénover l'univers en éliminant la méchanceté et les méchants. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et cette nouvelle création sera pour ceux-là qui ont accepté et pratiqué l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il est consigné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour ceux-là qui ne se seront pas souillés par des aliments impurs. Pour ceux-là qui auront établi la distinction entre la sanctification et l'impiété. Pour ceux-là qui auront prêché l'évangile de Dieu à travers toutes les nations et qui auront rassemblé pour le Seigneur un peuple bien disposé, dont il sera une seule nation en un seul jour, en les réunissant des quatre coins de la terre, lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Chrétiens, renaissance de la planète Terre. En ce moment-là, le peuple de Dieu sera définitivement consolé. Il n'y aura plus rien pour les troubler, car, dit la Bible, le Seigneur essuiera toutes larmes de leurs yeux. Oui, le Seigneur Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière pour les éclairer, car le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. En ce jour-là, ils oublieront les souffrances passées, ils oublieront les désagréments qui les avaient tourmentés au point qu'ils n'ont pas pu avoir du sommeil nuit et jour. Ils oublieront toutes les méchancetés dont ils étaient victimes. Chrétiens, serez-vous présents? Oui, vous devez être présents. Car, si maintenant, vous participez aux tourmentes, pourquoi ne pas participer aussi à la consolation finale et définitive que connaîtront les enfants du Seigneur? Maintenant, nous souffrons avec la planète Terre. Et pourquoi alors ne pas être présents quand cette planète sera totalement renouvelée jusque dans ses racines? Parce que le Seigneur veut que tous ses enfants soient avec lui et vivent pendant l'éternité. Car quand il a créé l'homme, il ne l'avait pas créé pour mourir. Il ne l'avait pas créé pour souffrir. Le péché nous a séparés de notre Dieu. La mort est venue, mais par un seul homme, le péché est venu dans le monde. Et c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, la justification totale, la rénovation. Chrétien, par la grâce de Dieu, je vous donne rendez-vous pour ce jour-là. Oui, le Seigneur, le juste juge, ne manquera pas de nous faire grâce. Si toutefois nous persévérons dans cet évangile, c'est vrai, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. De temps en temps, nous commettons le mal parce que nous sommes encore sur terre. Cependant, lui qui voit les reins et les cœurs, il sait comment se prendre pour nous introduire dans son royaume, parce que c'est son désir et c'est là aussi le tour.